J'ai rêvé totalement ce qui se
passe.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Le gouvernement congolais a décidé de procéder à l'indemnisation des victimes de la déhélanisation, un événement des années 70. Décision prise au cours des négociations entre le gouvernement et les créanciers commerciaux, propriétaires italiens, belges, français, grecs et portugais, propriétaires des biens déhélanisés et privés regroupés au sein du club de Kinshasa. De cette concertation, il ressort le principe des nouvelles modalités de règlement d'une partie de ses dettes, évaluée dans ce cadre à 800 millions de dollars. Un acompte de 5 millions de dollars leur sera versé, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Une décision prise après plus de 30 ans de la déhélanisation, un des événements des plus importants de la politique menée par le régime Mobutu. Que pensez-vous de ces décisions du gouvernement? Dans notre émission, nous avons invité pour vous M. Lambert Mendy, les porte-parole du gouvernement et ministre de la communication média. À la réalisation de l'émission, Kirola Mendy est sous la supervision de Nicole Ngaka. De Denis Yangassa est à la mise en onde. Marie-Chantal Moura, à la présentation.
Réagissez en direct à l'actualité, bon, parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiotapis.net.
Le Premier ministre vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour, Monsieur le ministre.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. La semaine dernière, vous avez annoncé au cours d'un point de presse la décision du gouvernement d'indemniser les victimes de la déhélanisation des années 70. La déhélanisation est ce mouvement politique créé par le président Mobutu consistant à revenir à une authenticité africaine des toponymies et des patronymies en supprimant tout ce qui était de consonance occidentale. C'est aussi la nationalisation progressive des biens commerciaux, des propriétés foncières qui appartenaient à des ressortissants ou groupes financiers étrangers. Monsieur le ministre, que représente cette indemnisation pour le gouvernement?
Il s'agit ici d'un problème de crédibilité pour l'État congolais, même si les décisions avaient été prises en 73 et que nous ne sommes pas politiquement comptables de ces décisions, nous en sommes comptables par le principe de la continuité de l'État. Il faut assurer à tous ceux qui traitent avec l'État congolais que demain, les engagements qui sont pris par les gouvernants d'aujourd'hui ne seront pas remis en cause. Donc nous sommes tenus de faire en sorte que ceux qui ont souffert des décisions prises sous la Deuxième République obtiennent réparation. Je pense que c'est ce qui peut rendre la confiance à ceux qui traitent avec notre pays.
Et aussi, quelle sera en fait la procédure d'indemnisation?
La procédure d'indemnisation a été négociée et avec nos partenaires du club de Kinshasa. Il s'agit de tous ceux qui sont propriétaires de ces biens qui sont réalisés, mais également leurs héritiers, également tous ceux qui les représentent, et aussi ceux qui ont livré des produits divers à l'État congolais. C'est une dette extérieure. Et donc, des négociations ont été menées avec eux, des appuis ont été sollicités et obtenus avec nos partenaires de la communauté financière internationale, et un premier débours de 5 millions de dollars a été convenu pour qu'il soit affecté au paiement de cette dette, au prorata de chaque dette, et nous sommes engagés à apurer la totalité dans les 24 mois subséquents.
Concrètement, est-ce qu'il y aura une commission qui sera mise en place pour pouvoir, par exemple, recevoir les plaintes de ces victimes, inventorier les biens qui ont été réalisés et même les acquéreurs?
Ce qu'il faut dire, c'est que la commission, s'il faut parler de commission, elle a déjà été mise sur pied, elle a fonctionné, et nous sommes ici dans la phase, une des dernières phases de cette opération qui consiste à la lancer la phase d'exécution. Il y a eu donc beaucoup de négociations, on a identifié les personnes qui sont concernées et les paiements vont commencer dans leur première phase et nous espérons en terminer avec les 29 premiers millions dans les 24 mois qui viennent.
Oui, aussi concernant ces fonds qui seront utilisés, est-ce que ça viendra du budget ou comme vous l'avez dit, il y a aussi d'autres sources?
Vous savez que nous avons au ministère des Finances une direction générale de la dette publique qui fait que pour chaque exercice budgétaire, il y a une partie des fonds qui sont affectés à l'apurement de ces engagements de l'État, que ce soit la dette intérieure, que ce soit la dette extérieure. Ici, ceci rentre dans le cadre des négociations qui ont été menées pour conduire le pays au point d'achèvement de l'initiative PPTE qui a vu notre pays se voir allégé d'une part substantielle de sa dette extérieure. Et donc, parmi les conditions qui ont été négociées avec nos partenaires, figurait également cette exigence de payer cette partie de la dette extérieure qui est due au club de Kinshasa. Et donc, ça fait partie de nos engagements et du soutien que nous apportent nos partenaires de la communauté financière internationale.
Oui, parce que là, encore une fois, c'est un lien avec l'atteinte du point d'achèvement de la RDC dans le programme, bien sûr, de l'initiative des pays pauvres très endettés. Est-ce que le fait qu'une partie de la dette soit effacée, donc le montant qui revenait chaque mois ou chaque année à la paye de cette dette extérieure, est-ce que ce sera sous ce montant aussi qu'on pourra encore une fois payer une autre dette extérieure qui sont les indemnisations?
Il faut que nous comprenions très bien de quoi nous parlons. S'il y a un montant qui est disponible du fait de la non-affectation de ce montant au paiement du service de la dette, il faut que ce montant ait été produit par nous. C'est-à-dire la condition pour que ce montant soit disponible, c'est qu'il soit créé de la richesse. Si nous devons nous croiser les bras, comme j'entends, beaucoup de gens sont tentés de le faire parce que soi-disant nous avons eu de l'argent du simple fait de la remise de la dette, alors ça risque de n'être qu'une illusion. Il faut que nous produisions cet argent pour que l'ayant produit, nous constations que nous n'avons plus à affecter le produit de notre travail au paiement du service de la dette et que donc nous avons un pactole à distribuer, soit en termes de dépenses sociales, soit en termes de revenus qui nous permettent d'alléger des dettes comme la dette intérieure ou la dette extérieure.
Donc il faut d'abord qu'on puisse arriver à pouvoir mobiliser les ressources, et à ce moment-là qu'on pourra dire qu'effectivement nous avons...
qu'on ne va plus les affecter au paiement de la dette et qu'on peut les affecter à autre chose.
Et nous aujourd'hui sommes dans Parole aux auditeurs, nous allons écouter ce que pensent les auditeurs de cette décision publiée par le gouvernement de pouvoir indemniser les victimes de la zaïanisation. En ligne, nous avons déjà Blanchard de Matadi. Néanmoins, si vous voulez participer à cette émission, c'est le 081-890-6315, le 081-890-6315. Vous pouvez nous écrire à notre adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Blanchard. Voilà, nous venons de perdre Blanchard, qui était notre premier auditeur au cours de cette émission qui est axée essentiellement sur la décision du gouvernement d'indemniser les victimes de la zéanisation. Et pour en parler, nous avons invité pour vous le ministre, qui est le ministre de l'Information, plutôt le ministre de la Communication et Médias, qui est aussi porte-parole du gouvernement. Et c'était au cours d'un point de presse que cette annonce a été faite. Il faudrait dire que c'est depuis la semaine dernière que cela a été fait. Et avec vous, les auditeurs, nous voudrions avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Décision, bien sûr, qui a été prise en concertation avec les créanciers, en concertation avec toutes les personnes qui sont concernées, les créanciers commerciaux, les propriétaires italiens, belges, français, grecs et portugais, propriétaires des biens aériennisés et privés regroupés au sein du club, comme nous l'avons dit dans notre introduction. Il y a déjà dans ce cadre, il y aura 800 millions de dollars qui seront versés à ces victimes et un acompte de 5 millions de dollars leur sera versé incessamment comme ils étaient entendus. Et voilà, nous sommes avec le ministre de la Communication et Médias qui est aussi porte-parole du gouvernement. En attendant que nos auditeurs puissent être en ligne, parce que là, apparemment, nous avons un problème de réseau. Nous savons que souvent, lorsqu'on parlait de zaïanisation, ça s'inscrive officiellement dans un effort visant à réapproprier une réappropriation nationale de l'économie, ainsi qu'une distribution, une redistribution des richesses acquises pendant la colonisation. Monsieur le ministre, on dirait que ça a été un échec, parce que ça a été même le déclin, l'élément déclencheur de l'économie de la RDC. Nous savons aussi que la zaïanisation a constitué un relais de clientélisme entretenu par le pouvoir en place à cette époque-là. Il y avait le clan, en fait, des personnes qui entouraient le chef de l'État ont bénéficié des fruits de cette politique de nationalisation. Et certains acquéreurs, pour l'instant, sont toujours en vie. Il y a d'autres qui sont décédés. Il y a d'autres acquéreurs qui ont bâti leur richesse sur ces acquisitions. Et quel sera alors le rôle de ces acquéreurs dans ces indemnisations?
Tout d'abord, vous avez tout à fait raison de critiquer les conditions de mise en œuvre de cette initiative de zaïrisation. Peut-être l'idée au départ n'était pas mauvaise, mais la façon dont les choses se sont déroulées ensuite nous crée des problèmes que nous sommes obligés de résoudre aujourd'hui. Bref, il y a pas mal de Portugais, il y a des Belges, il y a des Grecs, il y a tous ces gens qui animaient le réseau, le circuit de la vie économique à travers l'ensemble du territoire congolais. Il y a 1070 dossiers qui ont été inventoriés, avec lesquels le gouvernement est entré en négociation, mais parmi ces gens, il n'y a pas que des étrangers. Vous avez 97 cas de Congolais qui se sont vus rétrocéder les droits de ces Belges, Portugais, Grecs, etc., et qui sont tout à fait des créanciers dans le cadre du club de Kinshasa. Vous avez 321 dossiers pour lesquels l'État, depuis lors, a pu faire un effort d'apurement, et il y a 652 dossiers qui sont encore en force maintenant et qui sont donc concernés par cette initiative de remboursement qui est en cours. La décision était peut-être fondée sur des sentiments patriotiques. L'exécution a été assez malencontreuse et aujourd'hui nous devons absolument remettre les pendules à l'heure.
Mais les acquéreurs, ce sera leur rôle?
Mais les acquéreurs, je pense que l'État qui va se substituer à eux pour corriger les fautes qu'ils ont commises seront face maintenant à l'État. Je ne sais pas ce que l'État va décider. Il faut attendre maintenant. Nous sommes concentrés sur les victimes. On s'occupera toujours des acquéreurs, ce sont nos compatriotes.
C'est pour ça que j'espère que nos auditeurs sont au bout du fil. Nous avons Bavon, Dutivo et Gaylor de Colouzine. Commençons par Bavon. Bonjour Bavon. Bavon? Bonjour Bavon.
Oui, bonjour, madame Marie Chanda.
Oui, Bavon, vous êtes vraiment dans une salle. Est-ce que c'est possible que vous puissiez vous déplacer? Parce que là, on est un son de ces retours. Peut-être que vous êtes proche de votre poste récepteur, qu'il faut aussi l'éteindre. Comme ça, il y aura une meilleure communication. Bavon, le temps que vous puissiez vous déplacer, nous prenons Gaylor et puis nous allons revenir à vous. Bonjour, Gaylor. Gaylor?
Bonjour madame.
Oui, Gaylor, vous êtes à Kolwezi, c'est dans la province du Katanga. Oui. Dites-nous, quel est votre avis, qu'est-ce que vous pensez de la décision du gouvernement à pouvoir indemniser les victimes de la zaïanisation?
Bon, moi, à mon avis, je pense que c'est une très bonne décision. Je m'en vais d'abord saluer et louer en tout cas l'initiative de notre gouvernement. Ça prouve à suffisance que notre gouvernement commence à être quelque part mature et ce sont des gestes en tout cas à louer. Mais seulement que ça ne soit pas un projet qui soit déclaré comme ça et après ça commence à être quelque chose qui ne sera pas mis en œuvre, que ça soit des histoires comme par exemple nous avons le cas des agents de l'UNICEF. Il faut indemniser ou bon, plutôt de la sonate. On promet très bien et quand on commence à suivre, ça devient des histoires là, en tout cas, ça ne sera pas du tout.
Donc, votre souhait, que cela se réalise. Merci Gaylor de Colosie pour votre intervention. Nous revenons à Bavon, on espère que cette fois-là, la qualité sera meilleure. Bonjour Bavon.
Oui, bonjour, madame Marie Chantal.
Oui, on vous suit très bien. Dites-nous, Bavon, comment vous réagissez face à cette mesure du gouvernement?
Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas mal quand les gens ont été, ou des particuliers, ont été escroqués. C'est pratiquement le terme qu'on peut utiliser, c'est le cas de le dire. Ce n'est pas mal que ces gens-là rentrent dans leur voie. Mais seulement, ici à Issyrou, en province orientale, parce que nous avons connu ces cas-là, où il y a eu beaucoup de Grecs qui ont même laissé des enfants et des successions ici, il y a beaucoup qui ont été expropriés. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir, premièrement, les biens zaïrianisés, à qui est-ce que ces biens ont profité? Est-ce à des personnes physiques ou au peuple congolais? La réponse tout de suite, c'est dire que ces biens ont profité à des personnes physiques qui sont connues et qualifiées et qui étaient des proches du régime et dont les successions sont encore là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis des deux, faudra-t-il que le gouvernement se donne le luxe de dire que ces gens-là seront indemnisés avec l'argent des contribuables congolais? C'est là que le bas blesse, parce que le peuple congolais n'a pas profité de ces biens-là. Et comment ou de quel droit est-ce que le gouvernement va puiser l'argent dans les caisses du trésor public aujourd'hui, et donc de l'effort des petits peuples congolais qui n'ont pas profité de ces biens, pour faire payer cela aux petits peuples? Parce que nous, les Congolais, aujourd'hui, nous payons nos taxes pour que le gouvernement nous construise des écoles, le gouvernement nous construise des centres de santé. Avec les 5 millions dont on vient de parler tout à l'heure, le gouvernement pourrait mettre cela à profit pour construire, mais serait-ce des centres de santé ou des écoles dans certains coins de la République. Mais qu'on nous prenne notre argent pour rembourser ou indemniser ces gens-là, c'est là que moi je pense que le gouvernement risque de tomber dans une autre escroquerie de la population.
Mais à votre avis, Bavon, qu'est-ce qui peut être fait?
Ce qui peut être fait, ces gens-là qui ont pris les biens des particuliers, les biens d'autrui, sont connus à travers la République. Le gouvernement actuel a même des acquaintances et des amitiés avec ces gens-là. D'autres se retrouvent au gouvernement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que le gouvernement congolais puisse, ou la justice congolaise puisse sommer ces gens-là, pour qu'ils puissent restituer les biens particuliers à lieu et place de faire payer cela au petit peuple congolais qui n'a rien à faire avec ces biens réalisés. À moins que M. Lambert Mende, qui est là aujourd'hui, nous dise que le gouvernement a trouvé d'autres moyens supplémentaires ou que nous avons un excédent dans notre budget pour nous donner ce luxe-là de commencer à payer des choses que nous, les peuples congolais, nous n'avons jamais consommé, nous n'avons jamais profité de cela, c'est de l'escroquerie d'État.
Mais s'il vous plaît, Bavon, mais il faudrait savoir que, par exemple, dans des entreprises qui ont été zaïrianisées, il y avait des Congolais qui ont été employés. Et est-ce que vous pensez que vraiment le Congolais n'a nullement profité de cette zaïrianisation?
Les Congolais n'ont pas profité de cette zaïrianisation, madame, je vous le dis. Parce que même si les Congolais ont été employés par ces entreprises, c'est tout à fait normal que toute personne qui travaille soit payée. Donc, les Congolais qui ont travaillé dans ces entreprises-là, ils ont vu de leur droit, en tant que travailleurs, d'être payés quand ils font un travail.
Merci.
Et cela ne veut pas dire qu'ils ont profité de ces biens réalisés.
Merci beaucoup, Bavon Dissiro, pour votre intervention. Nous revenons ici à Kinshasa, où se trouve Bénin. Bonjour.
Bonjour, madame.
Si Bénin vous écoute.
Ah oui, madame, mon idée, ça se ressemble avec l'auditeur qui vient de parler.
Mm-hmm.
Je veux que le monsieur le ministre Mende, qui est là, nous informe d'abord clairement la source de recettes pour payer ces gens par rapport aux difficultés de notre pays. Et puis, ils sont nationaux et internationaux, comme il est dit. Est-ce que pour les nationaux, ils sont bien identifiés? Est-ce que pour les nationaux, ils sont bien identifiés? Il faut l'honnêteté dans leur identité. Il a parlé des héritiers. Est-ce que ces héritiers sont les vrais héritiers? Moi, je crois que notre pays a de dirigeants capables de tout faire. C'est une bonne initiative parce que ça lave le pays d'un mauvais climat des affaires et ça va attirer les investisseurs qui seront soulagés parce qu'ils sont... donc les histoires sont réparées.
Mm-hmm.
Maintenant, il faut qu'ils tiennent compte très sérieusement des réalités nationales. Il a parlé de 800 millions, si je l'ai bien suivi, et que la compte serait de 5 millions de dollars. Madame, monsieur le ministre est là, il est porte-parole du gouvernement, il connaît plus que quiconque toutes les difficultés de notre pays. Est-ce vrai que notre pays est à même d'avoir cet argent et payer ces gens, les indemniser, alors que des grèves, les stations, les enseignements, les travaux même sur le plan urbain ici. Nous avons la dette de 8 millions de dollars avec les contrats chinois. Donc les Chinois qui travaillent ici, nous devons les rembourser le minerai de cette valeur. Est-ce que nous n'avons pas cet argent qu'il faut compenser, enfin qu'il faut indemniser les aérianisés, qu'on a fait le contrat avec les Chinois? Normalement, le problème se pose sur les sources de recettes de notre pays qui couvrent les besoins nationaux. Si nous sommes éclairés, nous, le petit peuple, sur ces plans, eh bien, nous allons applaudir toutes les initiatives.
Mais comment vous savez que chaque fois qu'on a un budget, le budget souvent c'est public, hein, la discussion du budget, même pour les premiers, on peut avoir toutes les indications dans le journal officiel.
Merci, madame, j'en arrive. Est-ce que vous savez à combien, vous pouvez me répondre s'il vous plaît, madame, à combien s'estime le budget de notre pays?
C'est
7 millions de dollars, n'est-ce pas?
Le projet de budget 2011 ou bien celui de 2010?
2011, parlons d'abord
de budget, c'est encore un projet.
Ok, voilà. 2010, c'est moins de 7 millions, si vous avez les informations.
7 milliards.
7 milliards, ok. C'est de ces 7 milliards-là qu'on pourra payer, parce qu'on pourra payer aussi à 2010, à moins que le ministre dise que c'est dans le budget prochain.
Mmh.
Est-ce qu'on peut tirer les 800 millions de dollars de notre budget 2010 et indemniser ces gens sans qu'il y ait manquement d'argent pour résoudre le besoin national?
Mmh. Donc, si on vous comprend bien, Bénin, vous pensez que c'est une question de priorité, voire au regard des besoins de la population, réalité de la RDC, est-ce que c'est nécessaire pour l'instant de passer à de penser à indemniser les victimes, et aussi, vous soulignez quand même, vous dites que cela, si on arrive à indemniser, c'est une bonne chose, parce que ça pourra attirer les investisseurs. Donc pour vous, vous pensez qu'il y a une certaine priorité au regard des réalités nationales?
Oh, madame, je suis d'accord pour l'indemnisation, mais maintenant j'ai des interrogations. C'est la priorité, comme tu dis, il faut prioriser les nationaux d'abord, et puis il faut que nos stations réellement d'outils où le gouvernement fait argent.
Oui, bien l'argent. Merci beaucoup, Bénard, pour votre intervention. À partir de Kinshasa, nous restons à Kinshasa, où se trouve Frédéric. Bonjour.
Ah, bonjour, madame.
Oui, Frédéric, on vous écoute.
Oui. Moi, j'allais réagir parce que je ne peux pas voir les choses comme mes deux précédents.
Oui.
Dans ce sens que quand la zérianisation a eu lieu, moi, j'étais présent dans une des villes de la République, précisément à Djémena. J'ai vu un blanc, puisqu'à l'époque, mon père fut un policier, c'était un gendarme à l'époque. Alors, il était de garde chez ce monsieur-là à Costanonais. Le matin, on se réveille avec comme un nouveau maître, Félix Mobosse, par exemple. Alors,
nous allons éviter de citer les noms des personnes au cours de cette émission.
Merci beaucoup. Mm-hmm. Je n'ai pas d'avis à mon sens et je voudrais seulement illustrer ma pensée.
Mm-hmm.
Alors, à ce moment-là, on a vu le nouveau maître venir et nous, les enfants de militaires, on a ouvert les dépôts, on a commencé à vider les magasins, tout ça. Alors, c'est comme si c'était le temps d'un État extorqueur. Et aujourd'hui, je ne fais que féliciter le gouvernement actuel parce que prendre de telles initiatives, c'est essayer un peu de laver l'image de notre pays à l'extérieur. Hein? Moi, je ne trouve pas du mal. Et d'ailleurs, quand le ministre Mende parle toujours, j'ai beaucoup d'estime envers lui. Et dans ce genre de sujet, il a fallu qu'un tel monsieur comme lui-là pour essayer un peu d'expliquer à nos concitoyens. Peut-être les gens n'ont pas vécu ce fait. Moi, je vécu ça. C'était malheureux.
Merci Frédéric, pour votre témoignage. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous avez dit que vous avez vécu les faits. Vous pensez que c'est une bonne décision de pouvoir indemniser ces victimes. Merci pour votre intervention. Nous allons prendre deux données de Bombashi. Bonjour.
Ah, bonjour, madame.
Oui, que pensez-vous de cette indemnisation?
En tout cas, c'est vraiment regrettable pour le peuple congolais qui est martyrisé. Si nous pouvons bien nous souvenir de cette histoire, Mobutu a donné les biens d'expatriés à nos frères Zaïwa. Nous l'avons acclamé et à cette époque-là, si je me souviens bien, M. Mende Omalanga, il était opposant à Mobutu. Donc, c'est une action qui n'était pas dans sa vision en tant que politicien. Aujourd'hui, après que les Congolais aient pris les biens d'autrui, ils les ont consommés dans leur propre famille. Et ces gens-là, qui sont aujourd'hui dans les institutions, qui ministres, qui députés, qui sénateurs, et l'OGDEP, à cette époque-là, devrait faire son travail dans ce sens-là, de manière à récupérer l'argent de ces messieurs-là qui étaient spoliés, de manière à remettre, disons, leur dette. Maintenant, qu'est-ce que l'OGDEP avait fait à cette époque-là? Aujourd'hui, le Congolais a consenti des sacrifices de manière à ce qu'on puisse atteindre le point PTTE dont on a chanté, on a serré la ceinture au point qu'on voulait même couper les hanches. Nous nous sommes dit, nous allons respirer. On nous remet encore cette histoire des aériennes sur la table. C'est vraiment regrettable pour nous. Pourquoi j'ai dit ça? Les mêmes acquéreurs qui ont acquis les biens des expatriés, ils sont là, vivants, avec ces immeubles qui sont leurs propriétés privées. Est-ce que l'État congolais, en tant que responsable, ne peut-il pas récupérer ces biens-là parce que ces gens-là n'avaient pas réglé avec l'OGDEP en son temps? C'est la question que je pose à notre ministre opposant de Mobutu. Aujourd'hui, je trouve que son opposition n'avait pas de face. Merci beaucoup.
C'est votre point de vue. Merci Dieudonné de Lubumbashi. Vous nous appelez, c'est dans la province du Katanga.
Parole aux auditeurs. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Monsieur le ministre, nous revenons à vous dans ce studio, nos auditeurs, cette première série. Ils sont revenus sur la part, quelle est la part des acquéreurs dans cette indemnisation, surtout s'ils sont en vie ou s'ils ont des petits fils ou bien les petits qui gèrent encore ces biens-là. Voilà, ils se posent aussi des questions sur la priorité qu'accorde le gouvernement par rapport à indemniser les gens ou s'occuper d'abord du social, des populations. Au regard de la fonte sociale, donc autant de préoccupations de nos auditeurs.
Je voudrais d'abord les rassurer, parce que je comprends la révolte qui est celle du Congolais qui voit des gens que nous avons tous qualifiés et à raison de mauvais acquéreurs aujourd'hui. Ils n'ont pas su gérer ces acquisitions, qu'ils les ont eues de manière tout à fait irrégulière. Voir que l'État, le trésor public, est en train de payer pour eux. Je dis tout de suite que l'État n'a pas renoncé à faire payer à ces gens-là, mais puisque ils sont insolvables, et puisque nous avons décidé d'accepter un certain nombre de sacrifices, je crois que c'est Dieudonné de Lubumbashi qui est revenu là-dessus en disant qu'on a imposé aux Congolais des sacrifices. C'est vrai, on a dit qu'il faut serrer la ceinture, on a même eu une image assez heureuse en disant qu'on allait même couper la hanche. Je tiens à lui dire que ce paiement, justement, de la dette créée par l'indemnisation pour les victimes de cette zaïrianisation, fait partie de ces sacrifices que nous avons consentis dans la négociation du point d'atteinte.
Mais qu'est-ce que vous voulez par insolvable? Ça signifie que les acquéreurs,
ils ont tellement mal géré qu'ils ne peuvent pas payer.
Mais est-ce que vous leur avez quand même demandé officiellement de savoir qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire?
Il ne se passe pas une année.
Une part de responsabilité.
Oui, mais il ne se passe pas une année sans que, si vous faites attention, vous ne lisiez dans les journaux les communiqués de l'OGDEP qui appelle ces gens à payer ce qu'ils doivent à l'État. Et l'État a même négocié pour leur compte avec tous ses créanciers qui ont consenti même des allègements de plus de 80%. Et ils sont même incapables de payer le reste. Donc en fait, l'État s'est engagé pour améliorer le climat des affaires à payer, quitte à faire payer ceux qui devraient payer. Donc c'est ça, je crois, qui devrait rassurer
mon nos auditeurs voulaient que cette action soit simultanée au moment où on prend la décision de pouvoir payer les victimes de la zaïrianisation, au même moment, les acquéreurs, qu'il y ait une procédure pour que les acquéreurs, parce que peut-être qu'il y en a ceux qui ont la bonne foi, de pouvoir quand même aider dans la, ou bien payer de ce qu'ils ont fait.
S'ils avaient la bonne foi, ils auraient payé depuis longtemps, puisqu'on les appelle à le faire. Et de toute façon, quelle que soit la volonté de l'État, quelque part, un débiteur est parfois protégé par son insolvabilité. Il n'a rien, vous ne savez pas vendre sa peau pour faire payer. Et donc, c'est l'État, à travers toutes les structures. L'État, c'est d'abord le gouvernement qui met en demeure de payer. C'est ensuite la justice qui, constatant que vous ne répondez pas à la mise en demeure, peut procéder autrement. Mais tout cela ne nous met pas à l'abri des pressions de l'immédiateté. Nous devions assainir le climat des affaires. Nous devions rendre la confiance à nos partenaires pour mériter justement de la remise de la dette qui nous permet de respirer un peu aujourd'hui. Et je pense que ça, nos compatriotes devraient le comprendre. Et moi, j'ai constaté que pour la plupart d'entre eux, ce n'est pas la décision qui est mauvaise en elle-même. C'est le principe moral que ceux qui ont bénéficié de cette mauvaise décision ne soient pas ceux qui payent. Mais là, je les rassure tout de suite en disant qu'ils vont finir par payer. Mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas payer en temps utile pour notre climat des affaires que l'État a décidé de se substituer à eux, c'est ce qui se fait souvent, quitte à se retourner contre eux, et ça va se faire. Il faut que les gens se rassurent à ce point
alors
de vue.
Alors la politique tolérance zéro va aller vite.
Mais absolument,
parce que
il n'y a aucune possibilité
pour
que
ça se
fasse les choses à ce niveau. Ça doit commencer par là, avant de s'attaquer aux problèmes actuels.
Donc il y a aussi cette question...
Et excusez-moi, j'aimerais dire que celui qui paye ses dettes s'enrichit. C'est un principe de nos grands-mères, c'est la vérité. Ces décisions ont été prises par un gouvernement à l'époque, qui était légitime, quoi que l'on dise. Ce gouvernement exerçait le leadership sur ce pays. Il a pris cette décision, des gens à qui ça a été donné par népotisme, par des mécanismes de clientélisme, n'ont pas répondu aux attentes de l'opinion. Aujourd'hui, cette dette, c'est une dette du gouvernement parce qu'elle est partie d'une décision d'un gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui devait garantir la solvabilité de ces gens. Et donc, nous payons une dette qui est due et celui qui paye cette dette s'enrichit. Et c'est exactement parce que nous avons accepté cela qu'aujourd'hui, on a allégé notre dette extérieure et que nous pouvons respirer plus ou moins.
Nous allons directement à la préoccupation de notre auditeur, Benaz Kinshasa, qui voudrait avoir plus de précisions sur les sources de nos ressources.
Mais les sources de nos ressources, c'est le budget. L'État ne peut pas faire quelque chose en dehors des ressources dont il dispose dans le budget. Et comme vous le savez, un budget, c'est des ressources internes. Maintenant, nous sommes en train d'inverser la tendance. Auparavant, depuis la guerre, les ressources extérieures ont été toujours plus importantes, hein, de l'ordre de parfois 60% contre 40% de recettes intérieures. Maintenant, nous avons inversé la tendance. Nous sommes, je crois, lorsqu'on met les recettes nationales et provinciales, c'est 56 contre 44. Donc, de plus en plus, nous sommes en train d'être prépondérants dans les recettes qui constituent le budget. Vous savez, les fameux 7 milliards que nous attendons, nous mettrons entre 56 et 60% là-dedans. Donc, c'est les ressources internes, mais aussi les ressources extérieures.
Est-ce que vous pensez qu'effectivement, avec cette mesure, ça pourra améliorer le climat des affaires? Parce que plusieurs fois, les investisseurs se sont plaints que le climat des affaires en RDC ne leur favorise pas à pouvoir investir correctement leurs comptes.
C'est déjà le début. Vous savez, l'amélioration du climat des affaires, ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas un miracle. C'est une somme d'efforts que l'État, au niveau central, au niveau des provinces, partout dans les entités décentralisées, dans les structures judiciaires et autres, doit entreprendre pour donner confiance à ceux qui doivent investir leur argent et qui peuvent hésiter s'il y a tellement de dysfonctionnements. Une mesure comme celle-ci, qui corrige un dysfonctionnement majeur intervenu dans les années 70, vient donner confiance aux gens pour dire, si nous mettons de l'argent aujourd'hui, il n'y aura pas des enfants ou des petits-enfants de ces gens qui vont venir remettre en cause nos engagements. Je pense que ça commence par là.
Comme vous l'avez dit, nous sommes dans parole aux auditeurs et nous allons écouter d'autres auditeurs qui sont au bout du fil. Nous avons le sénateur Dongo qui nous a fait partie de Kinshasa et vous venez de Maragui.
Chaque samedi à 8h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Okapi pour anticiper les mauvaises surprises et profiter des bonnes surprises.
et ces paroles aux auditeurs qui se poursuivent, l'émission axée sur la décision du gouvernement d'indemniser les victimes de la réorganisation. Nous avons le sénateur Ngongo qui est au bout du fil. Bonjour, monsieur le sénateur.
Bonjour, mademoiselle ou madame.
Oui, madame. Bonjour. En fait, vous êtes sénateur, avocat d'affaires et président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Aujourd'hui, la République, le gouvernement de la RDC entend indemniser les victimes de la réorganisation. Est-ce que vous pensez que ces décisions ont vraiment un impact sur le climat des affaires?
Écoutez, j'ai pris l'émission en cours, j'ai entendu la voix de mon ami, monsieur le ministre de la Communication, Damien Mendé, je le salue. Alors, pour répondre à votre question, je dirais ceci, la décision que le gouvernement a prise, c'est une décision qui est toute une symbolique. Quand je dis symbolique, je veux dire par là que, enfin, le gouvernement prend ses responsabilités en main, comme l'a dit le ministre Lamendé, le gouvernement prend ses responsabilités en main et décide d'agir en lieu et place des débiteurs réels, compte tenu du fait qu'au point de départ, c'est le gouvernement qui avait, par un acte du prince, pris la décision de la réorganisation. Alors, est-ce que cela a une incidence sur le climat des affaires? Tout à fait, parce que cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'on peut faire confiance en notre gouvernement, quand il prend des engagements, il les respecte. En l'occurrence, j'ai cru comprendre que, comme nous-mêmes nous avons bénéficié, s'agissant de notre dette publique, d'une décote, eh bien, il nous a été demandé de rembourser en pratiquant la même décote. Donc, le gouvernement prend la décision de rembourser, et il rétablit à cet égard la relation de confiance qui doit exister, la confiance qui doit exister avec les opérateurs économiques. Je pense que forcément, ça doit avoir une incidence positive sur le climat des affaires. Généralement, qu'est-ce qu'on dit de nos gouvernements, tout au moins sous nos latitudes, c'est que c'est des gouvernements qui ne respectent pas les engagements qu'ils prennent, mais voilà qu'en l'occurrence, le gouvernement de la République démocratique du Congo dit, j'ai pris des engagements, je vais les respecter, j'ai cru comprendre qu'en fin octobre 2010, un premier montant sera versé, qui est de l'ordre de 5 millions de dollars. Je pense que cela ne peut que être salué par les opérateurs économiques et avoir une incidence positive sur le climat des affaires, sans aucun doute.
Donc, la question, c'est que ce soit effectif jusqu'au bout.
Bon, écoutez, il n'y a aucune raison de douter du fait qu'en prenant cet engagement, le gouvernement ira jusqu'au bout. C'est un engagement qui est pris devant la communauté internationale. Il n'y a pas de raison pour que le gouvernement ne le tienne pas jusqu'au bout. Le gouvernement, j'ai suivi le ministre qui l'a dit, le gouvernement remboursera sur ses moyens budgétaires. J'imagine que à chaque exercice budgétaire, il y aura des assignations budgétaires pour prévoir sur la tenue de ses engagements. Donc là, je ne pense pas qu'on devrait douter de cela.
Vous êtes sénateur, donc à un certain niveau, vous représentez le peuple. Que pensez-vous du fait que cet argent soit tiré du budget du contribuable?
Bon, écoutez, lorsque l'État agit, il agit par les moyens qui sont les siens. Et les moyens de l'État viennent de quoi? Les moyens de l'État viennent du prélèvement que l'État fait sur les revenus nationaux. Le revenu national, c'est les impôts que payent les entreprises, c'est les impôts que payent les personnes physiques. Donc, cet argent ne devrait pas venir d'ailleurs. C'est un engagement que l'État prend de payer en lieu et place les débiteurs réels, mais en tout état de cause, les débiteurs réels seront mis à contribution, seront poursuivis par l'État pour qu'ils payent. Donc, en fait, c'est un préfinancement que l'État fait pour ainsi dire, les engagements qu'il a pris, respecter son image de marque, faire en sorte que sa crédibilité ne soit pas mise en doute. je ne pense pas que cette question a lieu d'être posée. L'État ne peut pas faire autrement, sauf si évidemment dans le cadre des engagements internationaux, l'État a pu bénéficier d'une facilité qui ferait qu'il paye sur cette facilité, mais tout n'étant pas le cas, je pense c'est tout à fait normal que cela soit payé sur les moyens
du budget. Une toute dernière question, monsieur le sénateur, lorsque vous parlez de préfinancement, donc vous pensez que peut-être dans l'avenir qu'on puisse créer un impôt sur les acquéreurs, que les acquéreurs puissent
payer un certain Ça, je n'ai pas dit. Il me semble que la chose est tout à fait simple. La valorisation avait été décidée à l'époque par un gouvernement. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est un gouvernement qui était en place, qui était légitime. La décision avait provoqué un dommage et ce dommage devait être réparé. Qui devait réparer ce dommage, qui devait payer, c'était les bénéficiaires de la zarianisation. Il se trouve que les bénéficiaires de la zarianisation n'ont pas payé, en tout cas ils ne l'ont pas fait à temps. Le gouvernement dit, je le fais à la place de ces gens-là, quitte à me retourner contre eux. Donc, il me semble que le problème ne devrait pas se poser à ce moment-là. Au contraire, il faut saluer l'initiative que le gouvernement a prise. Il faut saluer cette initiative. On est en train de faire en sorte que les fondamentaux de l'économie, dont la confiance que les investisseurs doivent avoir vis-à-vis du pays, eh bien, que les fondamentaux de l'économie sont en train de se mettre en place.
Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour votre intervention. Nous allons prendre tout de suite Wouzélé. Il est de Mali. Bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Oui, on vous écoute, Wouzélé.
Oui, madame, je viens de suivre l'intervention du sénateur. Je pense que le sénateur n'est pas juste. Vous savez, madame, le sénateur a parlé de symbolique, le sénateur a parlé de beaucoup de choses. Je pense que, effectivement, cette décision dont le sénateur parle de symbolique là, c'est une bonne décision, mais une décision qui est mal placée. Vous savez, madame, notre pays, il y a souvent, on met la charité devant le pays. C'est ça le rêve dans notre pays. Nous avons des drones partout. Quand vous allez partout, vous trouvez, il y a des problèmes sociaux, la population crie, tout ça. Je pense que la meilleure chose, madame, c'était d'abord appliquer la tolérance zéro. La tolérance zéro vis-à-vis de ces acquéreurs. Ces gens sont là, ils ont des immeubles, ils ont des fermes, ils ont des sociétés qu'ils ont acquis illégalement, si vous permettez. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire aujourd'hui? Si on fait commencer d'abord à évaluer ces biens, ce serait mettre la charrue derrière le dos. On récupère ces biens et on récupère ces biens qui restent. Parce que le ministre Mende, que je suis à qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, le ministre Mende est là, il a dit on va poursuivre ces gens. Mais en retard, il fallait commencer d'abord par évaluer tout ce qui existe. Et c'est désormais reste de tout cela. Et après, on évalue, on récupère ces biens. Après, on essaie de voir des gens qui ont pu remettre leurs biens. On remet les biens pour les propriétaires. Après avoir remis les biens, alors à ce moment-là, on va voir. Commencer à parler maintenant de l'indemnisation. Comment on va commencer à parler de l'indemnisation au moment où les choses sont là?
Merci beaucoup.
Madame, le gouvernement a tort.
Merci beaucoup, Wouzélé. Je pensais qu'il faudrait d'abord commencer par évaluer tous les biens qu'ont ces acquéreurs, voir dans quelle mesure l'État doit frapper fort, pour pouvoir indemniser au lieu de retirer sur le budget de l'État, parce que je pensais qu'avec tous les problèmes sociaux que rencontrent les Congolais, vous pensez qu'il serait d'abord préférable de pouvoir régler ces problèmes-là. Nous avons José. Il est qu'à partir de vous, mais à mon avis, la zarianisation ne devait pas être une priorité pour le moment. Ce qui est prioritaire, ce sont les investissements à intérêt communautaire, comme les routes, les hôpitaux, les écoles. Ces décisions risquent de faire souffrir de clientélisme. Et aussi, on est à Malako, à Kalanga, il nous est écrit. La volonté du gouvernement d'indemniser les personnes victimes de la zarianisation est un acte d'honnêteté, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Merci au gouvernement d'accorder une attention particulière hier au plein de chantier du chef de l'État. Félix J.M. Luteau, qui nous écrit à partir de Paris, qui nous écrit aussi, je suis persuadé que cette indemnisation fera la boucle, c'est-à-dire c'est le même gouvernement et tous les autres tuteurs qui vont bénéficier de cette part et pas les gens qui sont destinés à cette indemnisation. Cette émission parole aux auditeurs et qui nous rediffusion. Nous prenons Jérémy qui est au bout du fil et qui a tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Jérémy, on vous écoute. Quel est votre avis?
En tout cas, je partirai de dire de mon prédécesseur, le sénateur, et celui qui a appelé depuis ce vrai que le Pébougna, est-ce que notre gouvernement a-t-il évalué tout ce qui était acquéreur de ces biens de la réunification? Dans la plupart des cas, c'était des concessions, des meubles, donc, et ils se sont arrêtés derrière ces biens. Ils se sont fait.
À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait, Jérémy? Qu'est-ce qui pourrait être fait, à votre avis?
Ce qui pourrait être fait, c'est que l'État qui paye maintenant là, c'est dans l'idée de soigner son image, comme toujours, de dehors. Il n'y a pas très longtemps qu'on a fait une intervention en Haïti, et maintenant, dans le pays, avec les cinq chantiers qui sont en train de se réaliser, il y a bien des personnes ici qui ont des clients. Ils se sont dit, leur maison démolie, c'est le cas à Kinshasa de la concession IM, Corot, Tembenatembe.
Oui, c'est Jérémy.
Une priorité.
Donc vous pensez qu'il y a d'autres priorités à part celle d'indemniser les victimes?
Celle d'indemniser les victimes est partirée en seconde
lieu. Merci. Merci Jérémy, d'ailleurs la qualité de la communication s'est détériorée, mais nous avons suivi ce que vous voulez nous dire. Nous prenons Jeannot de Walikale, Daniel de Walikale, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour.
Encore une fois, comme vous êtes habitué, s'il vous plaît, suivez l'émission à partir de votre téléphone portable, non par votre poste récepteur. On vous écoute Daniel. On a vraiment un temps de retour assez long. Vraiment, Daniel, on s'excuse parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a Jeannot Kalala qui nous a écrit. Il dit ceci, est-ce que le gouvernement comprend ce qu'il fait exactement? Donc, c'est l'achèvement du processus PPPE. Entre-temps, c'est le budget 7 milliards où on cherche encore des ressources réelles. Et de l'autre côté, c'est la grogne à la fonction publique. Qu'est-ce que le gouvernement veut exactement? Il y a Diaz Arlon. Il écrit ceci. L'indemnisation à la hauteur de 800 millions, pourquoi elle ne concerne que le club de Kinshasa, alors qu'il ne regroupe pas en son sein toutes ces personnes spoliées par l'État? La première tranche sera payée dans les 24 mois. Est-ce qu'il sera discuté au Parlement parce que c'est une décision du gouvernement? Et enfin, il y a Mickey Tassi de Goma qui nous écrit. Elle nous écrit ceci. Nous sommes vraiment contents de cette initiative, mais que l'État n'arrête pas sur le dire, mais aller jusque-là. Donc, il voudrait que cela puisse s'appliquer effectivement et pouvoir payer toute cette dette. Parole aux auditeurs. Monsieur le ministre, nous revenons à vous encore une fois. C'est la seconde série de nos auditeurs. Ils ont posé autant de préoccupations, priorités gouvernement. Quelles sont réellement les priorités?
Je voudrais d'abord saluer le sénateur Congo et le remercier pour ses encouragements au gouvernement. Je pense qu'il parle en connaissance de cause. C'est un opérateur économique connu et reconnu. Il anime l'une des chambres de commerce les plus importantes dans la capitale. Dire simplement à cet égard que même si l'État bénéficiait de facilités, parce qu'il a invoqué cette possibilité, toutes ces facilités, pour nous, nous devons les regrouper et ils doivent être traçables dans le budget de l'État. C'est l'instrument que l'État a à sa disposition pour allouer les moyens de son action. Maintenant, par rapport aux préoccupations de M. Ouzélé de Mahaï, qui a émis quelques réserves par rapport à l'appréciation du sénateur Congo, la décision, à mon avis, n'est pas mal placée. Et nous n'avons pas mis la charrue avant les bœufs. Le fait qu'il y ait des grognes, nous le reconnaissons. Le fait que nous n'ayons pas encore accompli tout ce qui doit être accompli au niveau des dépenses sociales, au niveau des infrastructures, d'accord. Mais tout cela fait nombre. pour disposer des moyens que nous pouvons allouer aux investissements pour les équipements collectifs, etc., nous devons avoir la confiance des investisseurs. Nous devons avoir la confiance de la communauté financière internationale, celle des donneurs. Et pour cela, il y a des conditionnalités parmi lesquelles ce geste que nous venons d'accomplir.
Mais sa préoccupation, c'est les acquéreurs. Pourquoi ne pas poursuivre d'abord les acquéreurs?
Mais bien sûr qu'ils seront poursuivis, je l'ai dit et je le répète, que personne n'a donné une immunité à ces acquéreurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Souvenez-vous, la Conférence nationale souveraine avait mis en place une commission des biens mal acquis dont j'ai personnellement rédigé le rapport. Lorsque M. Kabila arrive au pouvoir, une de ses premières initiatives, c'est de créer l'Office des biens mal acquis. C'est pour s'adresser justement à ce problème des acquéreurs. Et nous avons hérité de tout cela. Nous n'ignorons pas ce qui a été fait à la CNS. Nous n'ignorons pas ce qui a été fait. D'ailleurs, l'OBEMA est en liquidation, mais en liquidation au niveau du ministère de la Justice. C'est-à-dire, tous ces dossiers sont gérés et vont être transférés à la justice et tolérance zéro sera appliquée. Mais nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de faire cracher le morceau à un débiteur, un mauvais acquéreur qui n'est pas solvable.
Mais à quoi faire la justice à ce moment-là?
Mais la justice va travailler, mais la justice a son temps, elle a son rythme, elle ne fait pas de miracles. Mais aujourd'hui, nous devons accomplir le miracle de rétablir la confiance. Nous avons vu aussi que beaucoup d'intervenants estiment que la priorisation n'est pas heureuse, qu'on ne peut pas prioriser les dépenses de remboursement de ces dettes qui ont été contractées par les mauvais acquéreurs par rapport à d'autres dépenses. Il n'y a rien de tel. Les dépenses sociales sont intégrées dans le budget.
Mais les infrastructures, c'est ça le grand problème.
Bien sûr, on ne peut pas les ressentir, peut-être parce que le niveau est assez faible. Avec 7 milliards, on ne peut pas tout faire. Nous sommes certains que si nous n'avions pas atteint ce point d'achèvement, nous n'aurions pas eu 7 milliards à mettre dans le budget, on aurait eu moins. Mais tout ce qu'on a eu, 7 milliards, mais que ce n'est pas suffisant, contentons-nous de quelques avancées que cela nous permet. Ce n'est pas le fait que 5 millions vont aider à rétablir la confiance, que nous tuons tout espoir d'améliorer le social de ceux qui travaillent, la force sociale du pays. On a parlé de la boucle. Notre ami de Paris qui dit qu'il y a une boucle, je pense qu'il parle de ce fameux
principe de retour.
Je ne sais pas comment il pense que cela pourrait se faire. Il s'agit ici d'opérateurs qui sont pour la plupart à l'étranger. On ne voit pas pourquoi ils feraient des opérations de retour.
Peut-être qu'il était réservé à payer la dette extérieure maintenant qu'il y a effacement. C'est que presque ce sera les mêmes fonds qui vont maintenant être utilisés pour payer, pour indemniser. C'est un peu ça.
Mais on nous a, madame, on nous a effacé. On nous a effacé presque 10 milliards de dollars. Et comment 5 millions de dollars par rapport à 10 milliards peuvent être considérés comme faisant une boucle? La comparaison n'est pas du tout appropriée. C'est 5 millions par rapport à 10 milliards. Je ne vois pas comment on peut faire des comparaisons de cette nature-là. Imaginez la différence qui va aller à des choses autrement plus utiles. Et lorsqu'on dit qu'on n'a pas évalué ce que les acquéreurs ont pris, mais j'ai cité ici le rapport de la CNS, qui est toujours là, j'ai cité l'OBEMA, qui a été repris par le ministère de la Justice. Donc oui, l'évaluation a eu lieu. Il faut en finir avec ce pessimisme. Il y a des choses qui se font. Ceux qui ont pris et pour lesquels le Congo a payé vont devoir payer. Ça, je le répète, il faut qu'on se le dise.
S'il vous plaît, monsieur le ministre, nous avons un tout dernier auditeur. Il s'agit de Michel Tomoué. Il est en ligne. Il est administrateur délégué général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Bonjour, monsieur Tomoué. Monsieur Tomoué? Nous l'avons perdu, alors nous arrivons cheminons vers la fin de cette émission qui était axée essentiellement sur la décision du gouvernement à pouvoir indemniser les victimes de la verrianisation. Je sais que vous êtes en train de réagir face aux propos de nos auditeurs et aussi nous allons profiter pour une conclusion parce que là nous allons terminer l'émission dans moins de 3 minutes.
Je voudrais que tous nos auditeurs, tous nos compatriotes et d'autres n'aient pas en tête que le gouvernement paye pour soigner son image. Le gouvernement n'a pas d'image à soigner dans ce cas précis puisque la décision qui a été prise en 73 ne relève pas de ce gouvernement. Le gouvernement paye pour soigner l'image de marque du pays, l'État congolais. C'est tout le peuple congolais qui profitera de cette amélioration de l'image de marque du gouvernement. Le gouvernement comprend très bien qu'il y a d'autres priorités, mais le gouvernement inscrit l'amélioration du climat des affaires parmi les priorités, comme les dépenses sociales, comme les dépenses d'infrastructures et d'autres.
Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous sommes arrivés au bout de cette émission. Acceptons la décision du gouvernement d'indemniser les victimes de la zaryanisation. Nous vous en remercions à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Et vous étiez nombreux à vouloir le faire, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour vous passer tous à l'antenne. Demain, nous allons nous retrouver pour le dernier numéro de la semaine de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Et comme je l'ai dit, demain, nous allons nous retrouver pour le dernier numéro de la semaine de Parole aux auditeurs. Des cas de profanation des tombes dans les cimetières perdurent à travers le pays. Quelle est la situation dans votre milieu? Que faut-il faire pour mettre fin à ces pratiques? Voilà les deux questions qui vont lancer notre émission de demain. Mais vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nous disons merci à Pierre Lamegi, à Cynthia Bachizi, sous la supervision de Nicole Ndaka, qui ont réalisé cette émission. De Dominique Ngassa était à la mise en onde, Marie-Chantal Lumba à la présentation. À la prochaine. Thank you.